Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Je remets en cause, si vous voulez, les moyens inadaptés par le SAMU pour essayer de sauver ma maman.
Le SAMU mis en cause dans le décès d'une femme de 62 ans. Sa famille a pourtant appelé à 5 reprises le numéro d'urgence, mais les secours sont arrivés trop tard et la fille de la victime porte plainte pour homicide involontaire. Emmanuel Macron se dit prêt à réexaminer l'intervention militaire française au Sahel après la mort des 13 soldats au Mali. Il en appelle à l'aide des alliés pour combattre le terrorisme. Et c'est une exclusivité Europe 1. Le patron de l'OTAN a accordé une interview à Europe 1 dans laquelle il répond au président français.
La France n'a pas demandé l'aide de l'OTAN.
Entretien exclusif avec Jens Stoltenberg demain matin sur Europe 1, alors qu'Emmanuel Macron assume ses propos sur l'OTAN en état de mort cérébrale. Le cardinal Barbarin, jugé en appel pour non-dénonciation d'actes pédophiles, il ne voit toujours pas en quoi il est coupable. On verra également dans ce journal ce que préparent les professionnels du BTP qui prévoient de bloquer cette nuit plusieurs dépôts pétroliers pour dénoncer l'augmentation de la taxe sur le gazole. Côté météo, la journée de demain sera encore grise et pluvieuse sur une bonne partie de la France, sur la côte atlantique, les Pays de la Loire et jusqu'au Pays Basque, ça restera sec, tout comme sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Ne manquez pas bien sûr les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Dutheil. Emmanuel qui reçoit ce soir Thierry Lespiau, qui est le président du groupe Volkswagen en France.
Europe 1.
Et c'est un drame qui n'est pas sans rappeler l'affaire Naomi Moussanga à Strasbourg ou plus récemment celle d'un quinquagénaire de Meurthe-et-Moselle. Le 14 septembre dernier, une femme âgée de 62 ans est morte d'un infarctus au centre hospitalier de Belfort. Sa famille a décidé de porter plainte pour homicide involontaire. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. Elle estime en effet que le SAMU, appelé pourtant à 5 reprises, a mis trop longtemps à arriver. Justin Morin.
Tout s'est passé en à peine une heure après un déjeuner de famille. Anne-Sophie est inquiète. Sa mère, atteinte d'hypertension, ne se sent pas bien. Sa fille se montre très prudente et appelle le 15. Écoutez bien cet extrait que s'est procuré BFM.
Le SAMU ? Oui, bonjour, je vous appelle. J'ai ma maman qui ne se sent pas bien. Elle a mal dans le bras gauche. Elle a mal au ventre et à la tête aussi. Elle est toute blanche.
Oui, elle vient de vomir, ça c'est ça. Eh ben, écoutez, on va la voir, hein, puisqu'elle se sent pas bien. Il y a beaucoup de gastro en ce moment.
Une ambulance est envoyée, mais rapidement, l'état de la sexagénaire se dégrade. Anne-Sophie rappelle une fois, deux fois, alarme le médecin régulateur qui lui répond qu'une ambulance est en route. Sa mère arrête de respirer. Sa famille entame alors un massage cardiaque. Les ambulanciers arrivent, prennent le relais. Le mari de la victime appelle à son tour le SAMU et leur dit clairement, si elle décède, ce sera de votre faute. L'équipe d'urgence, elle, n'arrivera qu'à 16h17, soit près d'une heure après le premier appel. Edith Greffier décédera à l'hôpital d'un infarctus. Dès le début, pourtant, Anne-Sophie Forny-Greffier pensait avoir été clair.
Je remets en cause, si vous voulez, les moyens inadaptés par le SAMU pour essayer de sauver ma maman. Au vu des éléments précis et clairs que je leur ai donnés, je crois que c'est un problème qui va devenir assez récurrent par rapport aux problèmes que rencontrent les hôpitaux, etc. actuellement.
Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, responsable du 15, a répondu que toutes les procédures avaient été normalement suivies. Une enquête interne a également été ouverte.
Les précisions de Justin Morin pour Europe 1. Le bilan des intempéries du week-end dernier dans le sud-est s'est encore alourdi puisque le corps d'un sexagénaire porté disparu dans le Var a été retrouvé en début d'après-midi. C'est une battue organisée par la famille qui a permis de le retrouver. Ce violent épisode méditerranéen aura donc fait 6 victimes, mais un homme reste porté disparu, un pêcheur qui n'a pas donné signe de vie depuis samedi à Cassis. On en sait plus ce soir sur l'hommage national qui sera rendu lundi aux 13 soldats français morts au Mali. Hommage aux Invalides, présidé par Emmanuel Macron, qui prononcera l'éloge funèbre en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Hommage ouvert au public, 1 millier de places sera réservé aux anonymes. Il suffira de vous présenter à partir de 13h30 aux Invalides. La cérémonie aura lieu entre 15h et 17h. Seront présents les anciens présidents Nicolas Sarkozy, François Hollande et peut-être aussi Valéry Giscard d'Estaing. Sont conviés également les maires des communes qui abritent les régiments dont sont issus les soldats décédés. Chacun fera venir 2 classes d'élèves et un écran géant sera installé sur l'esplanade des Invalides. Et 3 jours après la mort de ces soldats, cette question, faut-il réexaminer l'intervention française au Sahel ? Aujourd'hui, pour la première fois, Emmanuel Macron s'est dit prêt à revoir les modalités d'intervention. Toutes les options sont ouvertes, dit-il, et il réclame surtout que les alliés de la France contribuent eux aussi à la lutte contre le terrorisme.
Le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel me conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. J'ai tenu hier une première réunion et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention Et je le dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Dans ce contexte-là, et en fonction des décisions que la France aura à prendre, une plus grande implication des alliés est évidemment quelque chose qui serait tout à fait bénéfique.
Emmanuel Macron qui s'exprimait aujourd'hui à l'occasion d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, le patron de l'Alliance Atlantique, qui répond au président de la République en exclusivité sur Europe 1, à qui il a accordé sa seule interview en France, entretien enregistré avec Sonia Mabrouk. Réponse du tac au tac, alors même qu'Emmanuel Macron a assumé ses propos sur l'OTAN en état de mort cérébrale.
La France n'a pas demandé l'aide de l'OTAN.
NATO has the capability to provide support, training, equipment.
L'OTAN peut fournir un soutien, une formation. Donc nous avons la capacité d'en faire plus. Mais nous ne le ferons que s'il y a une demande de la France. Si la France demande de l'aide de l'OTAN, je suis certain que les alliés de l'OTAN vont le prendre très au sérieux parce que l'OTAN voit l'importance de lutter contre le terrorisme également au Sahel.
La France n'a pas demandé l'aide de l'OTAN. C'est donc la réponse de son secrétaire général Jens Stoltenberg à Interview exclusive Europe 1 que vous retrouverez dans son intégralité, bien sûr, demain matin à 8h15 avec Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Après les routiers, les professionnels du BTP, deux professions qui sont très remontées contre l'augmentation de la taxe sur le gazole, une hausse de 2 centimes qui a un impact sur la rentabilité de ces entreprises. Ce matin donc, ce sont les transporteurs routiers qui ont mené des blocages dans le nord, près de la frontière belge. Et cet après-midi, les artisans des travaux publics ont mené, quant à eux, une opération escargot sur le périphérique de Nantes. Et visiblement, ils ne comptent pas s'arrêter là. Ronan Coquelin, il prévoit de bloquer dans la nuit plusieurs dépôts pétroliers.
Oui, cela concerne pour le moment les dépôts pétroliers situés en Bretagne. La raffinerie de Donges en Loire-Atlantique pourrait aussi être visée. Au grand mot, les grands remèdes, bloquer les dépôts, c'est le meilleur moyen pour se faire entendre, selon Vincent, patron d'une entreprise de travaux publics dans le Morbihan.
On va bloquer Lorient et on va aussi aller sur Rennes et le Finistère, donc à Brest. Si on ne marque pas le coup tout de suite, les députés ne comprennent rien. On a rencontré des députés, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire GNR. Alors qu'ils ont voté la loi, on est tout seul aujourd'hui. Mais on est capable de faire du grabuge.
Car les enjeux sont pour eux très importants. Dès ce midi, une centaine d'entre eux se sont rassemblés à Nantes devant la préfecture. Supprimer les avantages fiscaux sur le gazole non routier reviendrait à signer la mort de leurs entreprises. Pascal est entrepreneur dans le sud Vendée. Il redoute des dépenses astronomiques.
C'est même pas une petite mort, là. C'est la mort totale. Là, on est face à un mur. On ne peut pas s'adapter. C'est impossible.
Ces artisans des travaux publics ne céderont pas sans obtenir gain de cause, quitte à bloquer les dépôts pétroliers pendant plusieurs jours.
Ronan Coquelin en ligne de Nantes pour Europe 1. Vous êtes nombreux à appréhender le fameux 5 décembre, jeudi prochain, cette journée de grève interprofessionnelle qui pourrait marquer le début d'un mouvement longue durée en prévision des perturbations annoncées, en particulier dans les transports. Les Français s'organisent, le gouvernement aussi. Alors on sait déjà que la SNCF a prévenu 150 000 voyageurs que leur train serait annulé. Pour le reste, Jean-Rémy Baudot, vous avez des informations ce soir sur la façon dont le gouvernement tente de limiter les difficultés.
Et en réalité, le premier conseil du gouvernement, c'est de limiter les déplacements et de favoriser le télétravail. Pour ceux qui devront malgré tout voyager, notamment en Île-de-France, le ministère des Transports reste prudent, ne se risque à aucune estimation de trafic. Seules les lignes des métros automatisées fonctionneront normalement à Paris. C'est la 1 et la 14. Grâce aux non-grévistes et à certains cadres, il y aura quand même des métros sur certaines lignes, mais ce sera juste aux heures de pointe. Même chose, quelques bus devraient aussi circuler dans la capitale et entre Paris et la banlieue. Mais tout ça, ce sera grâce à ces non-grévistes et à ces cadres. Le gouvernement promet par ailleurs de faire pression sur les taxis et les VTC pour limiter les surfacturations, car les prix sont déjà en train de s'envoler. Mais il est clair que la situation s'annonce particulièrement tendue pour les usagers. D'autant qu'en coulisses au gouvernement, on se prépare à ce que la mobilisation dure plusieurs jours. Pas de réquisition en vue. Mais le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari mobilise actuellement ses réseaux pour que certaines lignes en Île-de-France soient compensées par des bus privés.
Les précisions de Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Martine Aubry, candidate à un quatrième mandat dans la ville de Lille. Elle le dit ce soir dans un entretien à nos confrères de La Voix du Nord. À la tête de la ville depuis 2001, elle avait assuré, après sa réélection en 2014, qu'elle ne se représenterait plus sauf circonstances exceptionnelles, eh bien, elle assure aujourd'hui avoir beaucoup mûri sa décision et elle juge nécessaire de tenir la barre face aux inégalités qui ne sont pas arrangées, aux tensions sociales, dit-elle, et à la crise climatique. L'ouverture aujourd'hui du procès en appel du cardinal Barbarin, accusé de ne pas avoir dénoncé à la justice les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse, le père Prénat. En première instance, Mgr Barbarin avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il a répété aujourd'hui qu'il ne comprenait pas sa condamnation dans cette affaire et ne voyait pas en quoi il serait coupable, Jean-Luc Boujon.
Non, effectivement, le cardinal ne voit pas comment il aurait pu en faire plus pour aider les victimes. Alors il détaille ses actions. D'abord, mars 2010, comment, après un entretien où Prénat lui avoue les faits d'agression sexuelle, il le sanctionne d'un simple déplacement dans une autre paroisse. Je ne pouvais pas faire plus, je n'en avais pas le pouvoir. Ensuite, novembre 2014, quand une victime du père Prénat, Alexandre Rézé, vient le voir pour tout lui raconter, à ce moment-là et sans attendre, le cardinal envoie un courrier à Rome pour savoir la conduite à tenir et à la barre il affirme « J'ai aussi demandé à Alexandre de tout faire pour trouver d'autres victimes non prescrites pour qu'une action en justice puisse être lancée. Tout ça est faux », répond ce soir Alexandre Rézé.
Ça ne s'est absolument jamais passé comme il l'a traduit.
Il ment.
Oui, il ment. Complètement. Lui dit que finalement, il a quasiment été leader dans toute cette histoire, et notamment au niveau du père Prénat, alors que rien ne se passait. Et d'ailleurs, après, la décision qu'il avait prise du père Prénat de notamment le mettre dans une nouvelle fonction qui était formateur des catéchèses. Pour moi, si c'est une sanction d'être formateur des catéchèses pour un pédocriminel, je ne comprends pas bien où est ni la justice ni la morale.
Voilà, un archevêque en tout cas très volubile depuis ce matin, comme il est plutôt ménagé par le président. Il prend le temps de s'attarder sur des dates, sur des détails sans important sur des anecdotes, le tout durant 3 heures. Un contraste saisissant avec les victimes, parties civiles, qui, elles, n'ont parlé qu'à peine une petite heure, alors qu'elles étaient 9 à attendre leur tour.
Jean-Luc Boujon qui suit pour Europe 1 ce procès en appel du cardinal Barbarin. Les loyers dans les résidences universitaires seront gelés l'an prochain. C'était l'une des revendications des organisations étudiantes pour réduire la précarité de certains jeunes. Bien, mais largement insuffisant, répondent les intéressés. Plusieurs dizaines de militants écologistes ont bloqué aujourd'hui un centre de distribution du géant Amazon à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Ils dénoncent les atteinte à l'environnement engendrée par la surconsommation liée au Black Friday prévu demain. Le voyagiste Thomas Cook, vendu à la découpe, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné 11 repreneurs pour Thomas Cook France. Ils reprendront donc 149 agences de voyage sur les 174 concernées par ce redressement judiciaire et la moitié des 685 salariés. Et puis vous connaissez sans doute ce médicament contre les maux de gorge, le Maxilaz. On le donne sous forme de sirop à ses enfants ou bien en comprimé plutôt pour les adultes. Eh bien le Maxilaz ne sera plus disponible désormais en libre accès. C'est une décision de l'agence du médicament qui a décidé d'imposer qu'il soit désormais derrière le comptoir. Ça veut dire qu'il faudra donc le demander aux pharmaciens. En effet, il est parfois à l'origine d'allergies graves, comme le confirme le docteur Jean-Michel Rass.
Il y a un certain nombre d'effets indésirables graves de type allergique qui ont quand même été déclarés pour les comprimés, pour les grands ados ou bien les adultes. L'existence de ce risque, même rare, nous a semblé justifier le fait qu'il faille le demander explicitement aux pharmaciens pour se le voir délivrer. Devant un patient qui est connu pour être un petit peu polyallergique, être asthmatique, avoir déjà fait des allergies soit alimentaires, soit médicamenteuses, eh bien, de façon à ce qu'il puisse dire, je pense qu'il vaut mieux éviter ce médicament chez vous et utiliser peut-être d'autres petits moyens, et pas médicamenteux, mais de beaucoup boire, de prendre des pastilles sucrées, un peu de miel, ça c'était nos grands-mères qui nous conseillaient ça. Et bon, ça marche.
Voilà les bons conseils du docteur Jean-Michel Rass, responsable des médicaments à l'ANSM. Il était joint pour Ève Roger. L'Irak a vécu l'une des journées les plus meurtrières depuis le début de la contestation. 31 manifestants tués. Le couvre-feu a été décrété à Nasiriyah, le berceau de la révolte. Visite surprise ce soir de Donald Trump en Afghanistan. Un voyage qui n'avait pas été annoncé à l'avance pour des raisons de sécurité et qui a eu lieu donc à l'occasion de la fête américaine de Thanksgiving. Le chanteur pour enfants Henri Dess, hospitalisé suite un malaise. Sa tournée à Paris le mois prochain est annulée. Les spectateurs pourront se faire rembourser leurs billets. Henri Dess qui a 78 ans. Et puis en foot, c'est terminé. Il n'y a plus aucun club français en Ligue Europa. Saint-Etienne accueillait ce soir les Belges de la Gantoise. Le match s'est terminé sur un score vierge et l'élimination donc des Stéphanois. Et puis dans l'autre match de la soirée qui se joue en ce moment, Rennes se déplace sur le terrain du Celtic Glasgow. Les Bretons qui sont dominés 2-0 actuellement à la 57e minute de jeu et qui sont de toute façon déjà hors course pour la qualification. On jette un œil tout de suite sur la météo.
Été comme hiver, les pneus 4 saisons Hankook s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Anissa Haddadi, vous nous promettez encore pas mal de pluie demain.
Oui Isabelle, avec encore un ciel couvert sur une grande partie du pays demain. De la Normandie à la région parisienne, le Nivernais, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Lyonnais. Les pluies seront assez soutenues le matin, un petit peu plus faibles et éparses dans l'après-midi, avec sur les Alpes des chutes de neige à partir de 1200 mètres. De la Bretagne au Limousin, les pluies seront de plus en plus faibles au fil des heures. Et puis sur la côte atlantique, les pays de la Loire jusqu'au Pays Basque, et bien là le temps reste sec avec des éclaircies dans l'après-midi. Midi. Sur le pourtour méditerranéen et la Corse, après la dissipation des nuages matinaux, l'après-midi sera bien ensoleillé. La tramontane souffle encore dans le sud. Et puis sur le Cap Corse, toujours ce vent d'ouest avec des rafales jusqu'à plus de 100 km/h. Les températures, elles sont un petit peu plus fraîches. Puis je vous le disais, attention, elles vont continuer de baisser au fil des jours. 1 degré demain matin à Charleville-Mézières, 7 à Paris, 11 à Nice et La Rochelle. Dans l'après-midi, 8 à 20 degrés de Verdun à Bastia. 11 pour Paris.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Thierry Lespiau, qui est le président du groupe Volkswagen en France. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h18, vous écoutez Europe 1, vous avez bien raison. Et comme tous les soirs à cette heure-ci, on va s'intéresser maintenant à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Alors pas de séance à Wall Street ce soir et pour cause, les marchés sont fermés pour Thanksgiving.
Voilà, pas de séance aujourd'hui à New York et demain Wall Street fermera également un peu plus tôt pour célébrer Thanksgiving. Du coup, la séance a été très calme à Paris sans la boussole des marchés américains. Le CAC 40 perd 0,24% à 5913 points. Alors Wall Street est fermé, mais les États-Unis font tout de même l'actualité. Donald Trump, encore lui, a promulgué une loi pour soutenir les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Décision qui a provoqué la colère de Pékin et qui pourrait chambouler tout le processus de négociation commerciale avec la Chine.
Encore une fois, les valeurs liées aux tensions commerciales en tout cas sont donc logiquement en baisse.
Oui, c'est du rouge pour le secteur automobile. Renault perd 1,4%, Peugeot moins 0,8%, les équipementiers Plastic Omnium et Valeo ont souffert également. On parlait des tensions à Hong Kong, elles pénalisent Rémy Cointreau. Résultat décevant au premier semestre pour le groupe de spiritueux. Les violences dans l'ancienne colonie britannique ont pesé sur les ventes de cognac premium notamment. Et le titre Rémy Cointreau perd donc 2,4%.
Le secteur du luxe, lui, s'en sort un peu mieux.
Oui, Kering, la maison mère de Gucci ou Saint Laurent, a signé un nouveau record pendant la séance. Hermès aussi est au plus haut grâce à une hausse de 0,5%. LVMH, en revanche, perd 0,5% après avoir bien monté quand même toute la semaine. Ailleurs en Europe, la séance a été calme, également en l'absence des investisseurs américains. Francfort perd 0,3%, Londres moins 0,2%, Milan moins 0,6%, Amsterdam moins 0,1%, Madrid est stable et le CAC 40 perd 0,2% à 5913 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de boursier.com que l'on retrouve demain à la même heure. Tout de suite, c'est l'heure de l'invité écho.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le président du groupe Volkswagen en France.
Bonsoir Thierry Lespiau.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron du groupe Volkswagen en France. Alors que le marché est stable, le marché automobile depuis le début de l'année, quand on regarde les chiffres du groupe Volkswagen, donc de toutes vos marques, vous êtes en progression de près de 8%. Est-ce que ça veut dire que ça y est ? La crise est totalement oubliée chez vous ?
Une crise n'est jamais totalement oubliée, mais en tout cas, effectivement, on est sur la bonne trajectoire. Il y a deux facteurs. Un premier facteur qui est purement conjoncturel, c'est-à-dire que sur les quelques mois qui viennent de s'écouler, en les comparant au même mois de l'an dernier, il faut se souvenir que l'an dernier, c'était la période des homologations WLTP.
Et donc, normes pour l'émission de...
Et le groupe ayant une telle quantité de modèles, ça nous a pris pas mal de temps et nous avions été handicapés. Donc la progression est à relativiser. Néanmoins, elle est réelle, puisqu'elle est fondée sur l'arrivée de beaucoup de nouveaux modèles qui sont arrivés dans les marques du groupe, et notamment en France, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.
Est-ce que vous diriez que sur l'inconscient collectif, par exemple sur votre marque principale Volkswagen, la crise est oubliée là du point de vue du consommateur? On n'a plus peur d'acheter des Volkswagen?
On n'en parle plus, ce n'est plus le sujet, et ça ne l'a pratiquement pas été. Il y a eu effectivement un moment difficile dans les premiers mois qui ont suivi septembre 2015, mais au-delà de ça, je crois que les consommateurs nous ont fait confiance. Ils nous ont suivis. Néanmoins, nous avons, nous aussi, pris des mesures tout à fait draconiennes et fait des investissements, et ces investissements aujourd'hui se voient et commencent à payer.
C'est ça. Est-ce que finalement, cette crise n'a pas été votre énorme chance? C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de cette crise, Volkswagen faisait partie de ces groupes qui disaient « le diesel, c'est formidable, on va continuer ». Là maintenant, plus un mot sur le diesel dans vos communications, on a l'impression que c'est le tout électrique. Vous venez d'annoncer 60 milliards d'euros d'investissement à l'échelle du groupe pour l'électrique. Est-ce que finalement, grâce à cette crise, vous avez accéléré beaucoup plus que ce que vous auriez fait?
Oui, parce que l'idée des voitures électriques était déjà dans le pipeline. Simplement, cette crise du diesel a provoqué un électrochoc. Il a été décidé d'investir massivement sur la technologie électrique. Donc, sur les 60 milliards d'euros d'investissement, il y en a quasiment 40 qui sont dédiés à la création des nouvelles plateformes électriques. Et puis, en parallèle, le développement des hybrides rechargeables. Donc, le chemin qui a été parcouru en très peu de temps, finalement, parce que c'était il y a 4 ans, est tout à fait considérable. Et aujourd'hui, les premiers modèles sont sur le marché.
Demain, ce sera quoi le changement réel? Et d'ici quand vraiment on verra les résultats de ces investissements?
Il y a deux choses qui se passent en parallèle. D'abord, un changement, une prise de conscience, également des décisions politiques qui sont prises et qui poussent les consommateurs vers des voitures à très faible émission. Une réglementation européenne qui est extrêmement lourde, avec les pénalités sur le CO2. Et donc, nous arrivons avec nos gammes de produits. Alors, très concrètement, là, dans les semaines qui viennent, nous lançons un dérivé électrique à autonomie de 260 km réel sur les modèles Volkswagen Up, Seat Mii ou Skoda Citigo.
Là, qui est vraiment l'entrée de gamme de vos principales marques.
Et qui met, après le bonus écologique, qui met une voiture électrique de ville à 16 000 euros. Dans l'année 2020, nous allons lancer la toute première voiture électrique, la fameuse ID3, qui est à peu près sur les gammes de Golf, dans des prix comparables à des Golf diesel, et qui va se vendre en quantité importante. C'est parti, tout l'écosystème se met en place. Je crois que le consommateur aujourd'hui va être face à une offre tout à fait confortable de voitures électriques.
Mais est-ce que vous pensez que ça va être enfin le développement de la voiture électrique en France? On ne parle que de ça, mais pas grand monde en achète.
C'est le décollage de la voiture électrique. Ça va s'opérer entre 2020, où nous arrivons, nous, presque les premiers d'ailleurs, avec une offre massive. Et à l'horizon 2025, ce seront des millions de voitures électriques qui se vendront tous les ans.
On voit aussi l'évolution de votre groupe sur le fait que vous sortez totalement des sports automobiles dans lequel il n'y aurait pas d'éléments électriques. Là aussi, c'est pour changer complètement et d'aller dans ce que vous considérez être le nouveau monde.
Oui, c'est une tendance lourde, que ce soit les formules, que ce soit même le trophée Andros, pour prendre quelque chose de très français. La tendance aujourd'hui est de mettre sur la piste des véhicules électriques. Ça nous permet de travailler sur les autonomies des batteries, sur les systèmes de gestion des batteries, systèmes de gestion moteur. Ça a un double intérêt, une attitude clairement orientée, et en même temps, faire du développement.
Vous êtes le patron du groupe Volkswagen en France, vous avez cité Seat, vous avez cité Skoda, on pourrait aussi citer Audi qui fait partie de votre portefeuille. Bon, bah là, c'est beaucoup moins mirifique. Vous venez d'annoncer cette semaine 9500 suppressions d'emplois à l'échelle mondiale. Ça ne marche plus, Audi, on n'a plus envie, ça ne fait plus rêver?
Pas du tout.
Bah, un peu quand même.
Ce n'est pas la question. Audi, 9500 emplois qui seront réduits. Volkswagen avait annoncé également des mesures. Tout ceci est aussi quelque part le résultat de la technologie des voitures électriques. Il faut beaucoup moins de temps pour fabriquer un moteur électrique que pour fabriquer un moteur conventionnel. En revanche, ce que l'on a dit et qui est moins souvent répété, c'est que nous embauchons des milliers d'ingénieurs, car nous développons aujourd'hui tous les systèmes électroniques et informatiques.
Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a un vrai trou d'air de vente en ce moment chez Audi.
Alors, il y a eu un trou produit. Et très honnêtement, quand vous regardez les chiffres d'évolution d'Audi aujourd'hui sur le marché français, la marque se vend très bien. Les nouveaux modèles, la 1 et le.
Donc pour vous, ils sont de retour et il ne faut pas s'inquiéter pour Audi face à Tesla ou autre.
Voilà, vous savez, ce sont des cycles produits. L'un va pousser au moment où l'autre ralentit. Nous avons été dans notre phase. Aujourd'hui, je dois dire une chose aussi, nous sommes numéro 1 sur les segments des entreprises et des particuliers avec Audi en France. Et une forte demande sur nos nouveaux modèles.
Enfin, toute dernière question. Le patron monde de Seat, je suis sûr que vous le connaissez quand même assez bien, Seat est une marque du groupe. On dit que c'est le futur patron de Renault. Ce serait un bon choix si vous deviez choisir?
Luca De Meo est non seulement un collègue, mais je le connais de très très longue date. Nous avons travaillé ensemble, même chez Toyota, voyez-vous. Je ne serais absolument pas étonné qu'il fasse le désir de concurrent. Maintenant, est-ce que lui, ça l'intéresserait? C'est une autre histoire.
Il vous l'a confié ou pas? Mais que vous connaissez, semble-t-il, très bien. Il vous a dit « je vais bientôt vous quitter ».
C'est le genre de choses dont on ne parle jamais, mais Luca est très très occupé en ce moment dans le groupe. Et franchement, l'avenir nous dira si ces rumeurs étaient fondées
Ou mais en tout cas, de ce que j'entends, ce serait un assez bon profil pour diriger Renault d'après vous.
Luca De Meo a un excellent profil. C'est un remarquable cadre et un très bon animateur.
Eh bien, merci beaucoup Thierry Lespiocq, le patron du groupe Volkswagen en France, était notre invité. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci à vous et à demain, même heure, Emmanuel Vuteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Régional, ce scrutin qui obsède Macron, titre le journal L'Opinion. Si les municipales de mars concentrent tous les regards actuellement, les élections de 2021 sont déjà dans beaucoup d'esprits. Ce sera un moment clé du quinquennat, estime le journal. Il installera en effet le décor de la présidentielle. Consommation, le côté obscur du Black Friday, titre le journal Libération. Symbole d'une fièvre consumériste effrénée, cette journée de rabais monstre importé des États-Unis suscite, vous le savez, de plus en plus de critiques jusqu'au gouvernement. Le journal Les Échos nous parle quant à lui de ce scénario qui inquiète beaucoup l'industrie automobile. La filière demande un plan d'urgence pour accompagner sa mutation. Les professionnels français redoutent un trou d'air dans les ventes début 2020. Ils donc redoutent d'être pris en tenaille entre le retournement du marché mondial et les lourds investissements indispensables pour assurer la transition technologique. Ils craignent donc ce trou d'air au début de l'année prochaine, nous disent Les Échos. Le Figaro évoque quant à lui ses préfets mobilisés contre la radicalisation islamiste. Les membres du corps préfectoral étaient conviés aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur à un séminaire de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, érigé en mission prioritaire. C'est une lutte sans merci, nous dit Le Figaro, que l'État conduit contre l'islamisme. Et puis à la une du Dauphiné Libéré, la route la plus chère de France. Elle se trouve en Savoie. C'est la route des Gorges de l'Arly et elle est coupée depuis février par un éboulement, considérée donc comme la plus chère de la France métropolitaine. En effet, depuis 15 ans, ce sont 150 millions d'euros qui ont été investis sur l'axe routier qui relie Savoie et Haute-Savoie. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, tout pile, on retrouve Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Merci, à tout à l'heure.